Chapitre 27, le retour de Patmol. Une des conséquences positives de la deuxième tâche fut de permettre à Ron de partager la vedette avec Harry. Tout le monde était avide d'entendre les détails de ce qui s'était passé au fond du lac, et Ron se trouvait ainsi sous les feux de la rampe. Harry remarqua que sa version des faits changeait légèrement chaque fois qu'il la racontait. Au début, il avait dit ce qui semblait être la vérité, son histoire, en tout cas cadrée avec celle d'Hermione. Dumbledore avait rassemblé dans le bureau du professeur McGonagall ceux qui devaient jouer le rôle des prisonniers et les avait plongés dans un sommeil magique, après les avoir assurés qu'ils ne risquaient rien et qu'ils se réveilleraient dès leur remontée à l'air libre. Une semaine plus tard, cependant, Ron faisait un récit beaucoup plus haletant où il était question d'un kidnapping au cours duquel il avait dû affronter seul une cinquantaine d'êtres de l'eau, puissamment armés, qui avaient fini par l'emporter au terme d'un rude combat et l'avaient solidement ligoté. « Mais j'avais caché ma baguette magique dans ma manche » affirma-t-il à Padma Patil. Elle semblait s'intéresser beaucoup plus à Ron depuis qu'il était au centre de l'attention générale et elle ne manquait jamais une occasion de lui parler chaque fois qu'elle le croisait dans un couloir. « J'aurais pu leur donner une raclée quand je le voulais à ces imbéciles aquatiques. » « Et tu t'y serais pris comment ? En ronflant ?» dit Hermione d'un ton agacé. Depuis qu'on savait qu'elle était ce qu'il y avait de plus cher au cœur de Victor Krum, Hermione avait fait l'objet de tant de moqueries que son humeur s'en ressentait. Les oreilles de Ron devinrent écarlates et, à compter de ce jour, il s'en tint à la version du sommeil magique. Lorsqu'arriva le mois de mars, le temps devint plus sec, mais des vents implacables leur écorchaient le visage et les mains chaque fois qu'ils sortaient dans le parc. Le courrier était retardé en raison des bourrasques qui détournaient les hiboux de leurs itinéraires. Le hibou que Harry avait envoyé à Sirius pour lui indiquer la date du prochain week-end après Ola revint le vendredi matin, la moitié de ses plumes retournées. Harry avait à peine détaché de sa patte la réponse de Sirius qu'il s'envola à nouveau, de peur d'avoir à repartir avec une autre lettre. La lettre de Sirius était presque aussi brève que la précédente. « Trouve-toi devant la clôture, au bout de la route de Pré-Olar, après Derviche et Bang, samedi après-midi, à 2 heures. Apporte autant de provisions que tu le pourras. » « Il n'est quand même pas revenu à Pré-Olar, » dit Ron, incrédule. « On dirait que si, » dit Hermione. « J'arrive pas à y croire, » murmura Harry d'une voix tendue. « S'il se fait attraper. » « Jusqu'à maintenant, il s'est bien débrouillé, non ?» fit remarquer Ron. « Et il n'y a plus de détraqueurs pour surveiller le village. » Harry replia la lettre et réfléchit. S'il voulait être honnête avec lui-même, il devait reconnaître qu'il était ravi de revoir Sirius. Il se sentit donc d'une humeur beaucoup plus joyeuse qu'à l'ordinaire lorsqu'il descendit les marches du sous-sol pour assister au dernier cours de l'après-midi, cours commun de potions. Malfoy, Crabbe et Goyle se trouvaient déjà à l'entrée de la salle en compagnie de Pansy Parkinson et de sa bande de filles de Serpentard. Ils ricanaient bruyamment en regardant quelque chose que Harry ne pouvait voir. La tête de bulldog surexcité de Pansy se pencha derrière la robuste épaule de Goyle, les yeux fixés sur Harry, Ron et Hermione. « Les voilà ! Les voilà ! » gloussa-t-elle. Le cercle des Serpentards se brisa et Harry vit que Pansy tenait un magazine à la main. Sorcière hebdo. La photo animée de la couverture montrait une sorcière aux cheveux bouclés qui souriait de toutes ses dents en pointant sa baguette magique sur un énorme gâteau.
« Tiens, Granger. » « Il y a quelque chose qui devrait t'intéresser là-dedans, » dit Pansy.
Elle jeta le magazine à Hermione, qui l'attrapa au vol, l'air surpris. Au même moment, la porte du cachot qui servait de classe s'ouvrit et Rogue leur fit signe d'entrer. Comme d'habitude, Hermione, Harry et Ron allèrent s'asseoir au fond de la salle. Dès que Rogue eut tourné le dos pour écrire au tableau la liste des ingrédients de la potion du jour, Hermione feuilleta rapidement le magazine sous sa table et finit par trouver ce qu'elle cherchait dans les pages centrales. Harry et Ron se penchèrent pour lire par-dessus son épaule. Une photo en couleur de Harry accompagnait un court article intitulé « La blessure secrète de Harry Potter, le mal-aimé ». C'est sans nul doute un garçon différent des autres, mais qui pourtant ressent comme les autres les tourments de l'adolescence, écrit Rita Skeeter. Privé d'amour depuis la disparition tragique de ses parents, Harry Potter pensait avoir trouvé à 14 ans une consolation auprès de son ami de cœur, Hermione Granger, issue d'une famille moldue et elle aussi élève du collège Poudlard. Il était loin de se douter qu'il allait bientôt subir un nouveau choc affectif dans une vie déjà marquée par le malheur. Miss Granger, une jeune fille ordinaire mais ambitieuse, semble éprouver pour les sorciers célèbres une attirance particulière que Harry ne peut satisfaire à lui tout seul. Depuis l'arrivée à Poudlard de Victor Krum,
l'attrapeur de l'équipe de Quidditch de Bulgarie et héros de la dernière Coupe du Monde, Miss Granger paraît s'amuser beaucoup de l'affection que lui portent les deux garçons. Chrome, qui s'est de toute évidence pris de passion pour la tortueuse Miss Granger, l'a déjà invité à lui rendre visite en Bulgarie pendant les prochaines vacances d'été et ne cesse de lui répéter qu'il n'a jamais ressenti quelque chose d'aussi fort pour une autre fille.
Il n'est toutefois pas certain que ce soit le charme discutable de Miss Granger qui ait eu sur le malheureux un tel pouvoir d'attraction.
Elle est vraiment laide, n'hésite pas à affirmer Pansy Parkinson, une jeune fille vive et séduisante, élève de quatrième année. Mais elle est très ingénieuse et serait bien capable d'avoir fabriqué un filtre d'amour. Je crois que c'est comme ça qu'elle y arrive. Bien entendu, les filtres d'amour sont interdits à Poudlard et il ne fait aucun doute qu'Albus Dumbledore s'appliquera à vérifier l'exactitude de ses affirmations. En attendant, les admiratrices de Harry Potter devront espérer qu'à l'avenir, il saura mieux choisir l'élu de son cœur.
« Je te l'avais dit, » murmura Ron à Hermione qui contemplait l'article d'un air perplexe. « Je te l'avais dit de ne pas contrarier Rita Skeeter. Maintenant, voilà ce qui arrive. Elle te fait apparaître comme une sorte de gourgandine. »
L'expression de surprise s'effaça du visage d'Hermione et elle réprima un éclat de rire.
« De gourgandine ?»
répéta-t-elle secouée d'un rire silencieux.
« C'est comme ça que ma mère les appelle, » marmonna Ron, les oreilles écarlates. « Si c'est tout ce que Rita est capable de faire, ça veut dire qu'elle commence à faiblir !»
murmura Hermione qui continuait de rire sans bruit. Elle jeta l'exemplaire de sorcière hebdo sur une chaise vide à côté d'elle.
« Complètement idiot tout ça !»
Elle se tourna vers les serpentards qui les observaient à l'autre bout de la salle pour voir si l'article de Rita Skeeter avait produit l'effet escompté et leur adressa un signe de la main accompagné d'un sourire sarcastique. Puis Harry, Ron et elle sortirent de leur sac les ingrédients nécessaires à la fabrication d'une potion déguise-ménage. « Il y a quand même quelque chose de bizarre, » dit Hermione. Une dizaine de minutes plus tard, son pilon suspendu au-dessus d'un bol rempli de scarabées. « Comment Rita Skeeter a-t-elle fait pour savoir ?»«
Pour savoir quoi ?» demanda Ron.
« Tu n'as quand même pas fabriqué de filtre d'amour, non ?»«
Oh, ne dis pas de bêtises !»
répliqua sèchement Hermione en commençant à piler les scarabées. « Je me demande simplement comment elle a pu savoir que Victor m'avait invité à venir le voir cet été. »
Hermione rougit et évita délibérément le regard de Ron.
« Quoi ?» dit Ron en lâchant son pilon qui tomba dans son bol avec un bruit sec.
« Il me l'a proposé juste après m'avoir sorti du lac, » marmonna Hermione. « Quand il a été débarrassé de sa tête de requin, Madame Pomfraîche nous a donné des couvertures à tous les deux et là, il m'a entraîné un peu à l'écart et il m'a dit que si je ne faisais rien de spécial l'été prochain, il aimerait bien que... Et qu'est-ce que tu lui as répondu ?»
demanda Ron. Il avait repris son pilon, mais trop occupé à regarder Hermione. Il l'écrasait consciencieusement sur son bureau sans s'apercevoir que son bol se trouvait à une bonne quinzaine de centimètres.
Et en plus, il a vraiment dit qu'il n'avait jamais ressenti quelque chose d'aussi fort pour une autre fille,
reprit Hermione en devenant si écarlate que Harry sentait presque de la chaleur émaner de son visage.
Mais comment Rita Skeeter a-t-elle pu l'entendre? Elle n'était pas là. Ou alors, peut-être qu'elle y était quand même. Peut-être qu'elle aussi a une cape d'invisibilité qu'elle a réussi à se faufiler dans le parc pour assister à la deuxième tâche.
Et qu'est-ce que tu lui as répondu? Répéta Ron en remuant son pilon si fort qu'il fit une marque dans le bois de la table.
« Oh, j'étais beaucoup trop occupé à regarder si Harry allait enfin te sortir du lac pour... »«
Je ne doute pas que votre vie personnelle soit absolument passionnante, Miss Granger, » dit une voix glaciale derrière eux. « Mais je vous demanderai de ne pas choisir mon cours pour en faire bénéficier vos voisins. 10 points de moins à Gryffondor. »
Rogue s'était glissé jusqu'à leur table pendant qu'ils bavardaient, et toute la classe avait à présent les yeux fixés sur eux. Malfoy profita de l'occasion pour faire étinceler son badge à Papoteur en direction de Harry.
« Ah tiens, vous lisez les magazines en cachette maintenant ?»
ajouta Rogue en prenant l'exemplaire de sorcière hebdo.
« 10 autres points de moins à Gryffondor. Oh, mais bien sûr !»
Les petits yeux noirs de Rogue étincelèrent lorsqu'il tomba sur l'article de Rita Skeeter.
« Je comprends, Potter doit mettre à jour son dossier de presse. »
Les rires des serpentards résonnèrent dans le cachot et un sourire mauvais retroussa les lèvres minces de Rogue. À la grande fureur de Harry, il commença à lire l'article à haute voix.
« La blessure secrète de Harry Potter, le mal-aimé. Eh bien, Potter, qu'est-ce qui ne va pas ? C'est sans nul doute un garçon différent des autres. »
Harry avait les joues brûlantes. Rod marquait une pause à la fin de chaque phrase pour laisser le temps au Serpentard d'éclater d'un grand rire. Lu à haute voix par Rogue, l'article paraissait 10 fois pire.
« Les admiratrices de Harry Potter devront espérer qu'à l'avenir, il saura mieux choisir l'élu de son cœur. Voilà qui est très émouvant, » dit-il en refermant le magazine dans l'hilarité générale des Serpentards. « Je crois que je ferais bien de vous séparer tous les trois pour que vous puissiez vous concentrer sur vos potions plutôt que sur la complexité de votre vie sentimentale. Wesley, vous restez ici. Miss Granger, vous allez là-bas, à côté de Miss Parkinson, et vous, Potter, à la table qui se trouve devant mon bureau. Allez, dépêchez-vous. »
Furieux, Harry jeta ses ingrédients et son sac dans son chaudron qu'il traîna jusqu'à la table libre du premier rang. Rogue le suivit, s'assit à son bureau et le regarda vider son chaudron. Bien décidé à ne pas lever les yeux vers lui, Harry recommença à piler ses scarabées en imaginant que chacun d'eux avait le visage de Rogue.
« L'attention de la presse semble avoir fait enfler votre tête qui était déjà très volumineuse, Potter, » dit Rogue à voix basse lorsque le reste de la classe fut remis au travail.
Harry ne répondit pas, il savait que Rogue essayait de le provoquer, c'était son habitude. Il cherchait un prétexte pour pouvoir retirer 50 points à Gryffondor avant la fin du cours.
« Vous faites tous les efforts possibles pour vous donner l'illusion que le monde de la sorcellerie a les yeux tournés sur vous. » Poursuivit Rogue en parlant si bas que personne d'autre ne pouvait l'entendre. Harry continuait de piler ses scarabées, bien qu'il les eût déjà réduits en une poudre très fine. « Mais peu importe combien de fois votre photo apparaîtra dans la presse, pour moi, Potter, vous ne serez jamais qu'un petit voyou qui se croit au-dessus des règles. »
Harry versa la poudre de scarabée dans son chaudron et commença à couper les racines de gingembre. La colère faisait légèrement trembler ses mains, mais il gardait les yeux baissés, comme s'il n'entendait pas ce que lui disait Rogue.
« Alors je vous avertis loyalement, Potter, » poursuivit Rogue d'une voix encore plus basse et menaçante, « malgré votre célébrité de pacotille, si jamais je vous reprends à fouiller mon bureau... »«
Je ne me suis jamais approché de votre bureau !» répliqua Harry avec colère, oubliant soudain sa prétendue surdité.
« Ne m'occupe pas !» siffla Rogue, ses yeux noirs insondables, vrillant ceux de Harry. « Peau de serpent d'arbre, branchiflore, ces deux ingrédients proviennent de mon armoire personnelle et je sais très bien qui me les a volés. »
Harry soutint le regard de Rogue, décidé à ne pas siller et à ne pas laisser apparaître sur son visage la moindre trace de culpabilité. Il n'avait volé aucun de ces deux ingrédients, c'était la vérité. Hermione avait pris de la peau de serpent d'arbre 2 ans auparavant, ils en avaient eu besoin pour préparer le polynectar, et bien que Rogue eût soupçonné Harry à l'époque, il n'avait jamais pu apporter la moindre preuve. Quant à la branchiflore, c'était bien évidemment Dobby qui l'avait volée. « Je ne sais pas de quoi vous parlez, » mentit Harry d'un ton glacial.
« Vous vous promeniez dans les couloirs la nuit où la porte de mon bureau a été forcée. » murmura Rogue d'une voix sifflante. « Je le sais, Potter. Il est possible que Maugrey Folleuil ait adhéré à votre fan club, mais je ne tolérerai pas votre conduite pour autant. Si jamais vous recommencez à traîner la nuit dans mon bureau, vous me le paierez. »
« Très bien, » dit froidement Harry en revenant à ses racines de gingembre. « Je m'en souviendrai si jamais il me prenait l'envie d'aller faire un tour dans votre bureau. » Les yeux de Rogue lancèrent des éclairs et il plongea la main dans une poche de sa robe de sorcier. Pendant un instant de panique, Harry crut que Rogue allait saisir sa baguette magique et lui jeter un sort. Mais il le vit sortir un petit flacon de cristal rempli d'une potion claire comme de l'eau. Harry regarda le flacon d'un air intrigué.
« Savez-vous ce qu'est ceci, Potter ?»
demanda Rogue, le regard à nouveau menaçant.
« Non, » répondit Harry le plus sincèrement du monde cette fois.
« C'est du Veritaserum, oui. » Oui, un sérum de vérité si puissant que 3 gouttes suffiraient à vous faire révéler vos secrets les plus intimes devant cette classe tout entière, reprit Rogue d'un air cruel. L'usage de cette potion est soumis à un règlement très strict du ministère. Si vous ne surveillez pas votre conduite, il se peut très bien que ma main glisse par inadvertance. Il secoua légèrement le flacon au-dessus de votre jus de citrouille. Et alors, Potter, nous saurons enfin si oui ou non vous vous êtes introduit dans mon bureau.
Harry ne répondit rien et recommença à couper ses racines de gingembre. Il n'aimait pas du tout cette histoire de sérum de vérité. Il savait que Rogue était capable de lui en faire avaler.
Il réprima un frisson d'horreur en pensant aux paroles qui pourraient sortir malgré lui de sa bouche si Rogue mettait sa menace à exécution. En dehors des ennuis qu'il risquait de causer à d'autres, Hermione et Dobby pour commencer, il y avait également tout ce qu'il cachait. Le fait qu'il était en contact avec Sirius, par exemple. Et aussi, il sentit ses entrailles se nouer à cette pensée, les sentiments qu'il éprouvait pour Cho. Il versa les racines de gingembre dans le chaudron et se demanda s'il ne devrait pas imiter Maugrey et ne plus boire que le contenu d'une flasque qu'il garderait dans sa poche. Quelqu'un frappa à la porte du cachot.
« Entrez !»
dit Rogue en retrouvant sa voix habituelle. Toutes les têtes se tournèrent vers la porte et le professeur Karkaroff apparut. Les élèves le suivirent des yeux tandis qu'il s'approchait du bureau de Rogue. Il avait l'air nerveux, tortillant à nouveau l'extrémité de son bouc autour de son index.
« Il faut que nous parlions !»
dit Karkaroff à Rogue, sans autre préambule. Il semblait si soucieux de n'être pas entendu des autres qu'il parlait en remuant à peine les lèvres. Il avait l'air d'un ventriloque pas très doué. Harry, l'oreille tendue, garda les yeux fixés sur les racines de gingembre.
« Nous parlerons après mon cours, »
murmura Rogue, mais Karkaroff l'interrompit.
« Je veux que nous parlions maintenant, Severus. Sinon, tu vas encore te défiler. Tu essayes toujours de m'éviter. »«
Après le cours, » répliqua sèchement Rogue.
Prenant prétexte de vérifier qu'il avait versé suffisamment de bile de tatou, Harry leva son verre d'oseur et en profita pour leur jeter un regard en biais. Karkaroff paraissait extrêmement inquiet et Rogue avait l'air furieux. Karkaroff resta près du tableau noir avec l'intention très nette d'empêcher Rogue de filer à la fin de la classe. Curieux d'entendre ce que Karkaroff voulait lui dire, Harry renversa délibérément son flacon de bile de tatou 2 minutes avant la fin du cours, ce qui lui donna une excuse pour se pencher derrière son chaudron et éponger le liquide répandu pendant que les autres élèves quittaient bruyamment la salle.
« Qu'est-ce qu'il y a de si urgent ?» demanda Rogue entre ses dents.
« Ça !» répondit Karkaroff.
Jetant un coup d'œil derrière le chaudron, Harry vit Karkaroff remonter la manche gauche de sa robe et montrer à Rogue quelque chose sur son avant-bras.
« Alors ?» dit Karkaroff, qui s'efforçait toujours de ne pas remuer les lèvres. « Tu as vu, elle n'a jamais été aussi nette depuis. Cache ça !»
lança Rogue, ses yeux noirs balayant la classe.
« Enfin, tu as dû remarquer !»
commença Karkaroff d'une voix fébrile.
« Nous en reparlons plus tard !» répliqua Rogue.
« Potter, qu'est-ce que vous fabriquez ?»«
Je nettoie la bile de tatou qui s'est renversée, professeur, » répondit Harry d'un ton innocent. Il se redressa et montra à Rogue le chiffon humide qu'il tenait à la main. Karkaroff tourna les talons et sortit du cachot, l'air à la fois inquiet et furieux. Peu désireux de rester seul en compagnie d'un Rogue particulièrement énervé, Harry jeta pêle-mêle ses livres et ses ingrédients dans son sac et fila raconter à Ron et à Hermione ce qu'il venait d'entendre. Le lendemain, ils quittèrent le château à midi, sous le faible soleil aux reflets argentés qui illuminaient le parc. Le temps se montra plus clément qu'il ne l'avait été depuis le début de l'année, et lorsqu'ils arrivèrent, après Aulard, tous trois avaient ôté leur cape qu'ils avaient jetée sur l'épaule. Les provisions demandées par Sirius se trouvaient dans le sac de Harry. Au cours du déjeuner, ils avaient réussi à subtiliser 12 de cuisses de poulet, 1 miche de pain et 1 flasque de jus de citron. Ils s'arrêtèrent chez Guéchiffon pour acheter un cadeau à Dobby et s'amusèrent à choisir les chaussettes les plus affreuses qu'ils purent trouver, dont une paire ornée d'étoiles lumineuses, or et argent, et d'autres, qui se mettaient à hurler lorsqu'elles devenaient trop odorantes. Puis, à 1h30, ils se dirigèrent vers la Grand-Rue, passèrent devant Derviche et Bang et poursuivirent leur chemin vers la sortie de Préaulard. Harry ne connaissait pas cette partie du village. Une allée sinueuse les mena dans la campagne luxuriante qui s'étendait alentour. Ici, les maisons étaient moins nombreuses et leurs jardins plus grands. Ils marchèrent vers la montagne qui dominait Préaulard, puis, au détour d'un virage, ils aperçurent une clôture au bout de l'allée. Les pattes posées sur la plus haute barre de la clôture, un gros chien noir aux longs poils les attendait. Il portait des journaux dans sa gueule et sa silhouette leur était familière.
« Bonjour, Sirius. » dit Harry lorsqu'il fut arrivé devant lui.
Le chien noir flaira son sac avec avidité, remua la queue, puis fit volte-face et traversa d'un bon pas l'étendue broussailleuse qui montait en pente douce vers la montagne. Harry, Ron et Hermione passèrent par-dessus la clôture et le suivirent.
Sirius les conduisit au pied de la montagne sur un terrain couvert de pierres et de rochers. Avec ses quatre pattes, il n'avait aucun mal à avancer, mais Harry, Ron et Hermione furent bientôt hors d'haleine. Sirius les emmena plus haut, à flanc de montagne. Pendant près d'une demi-heure, ils escaladèrent un sentier tortueux, escarpé, suivant la queue touffue du gros chien. Il ruisselait de sueur et la courroie du sac de Harry lui meurtrissait l'épaule. Soudain, Sirius disparut. Ils aperçurent alors une étroite fissure par laquelle ils s'étaient glissés. Ils parvinrent à s'y faufiler à leur tour et se retrouvèrent dans une caverne fraîche et sombre. Buck, l'hippogriffe, moitié cheval, moitié aigle géant, était attaché à une corde nouée à un gros rocher. Ses yeux oranges au regard féroce se mirent à étinceler lorsqu'il les vit entrer. Tous trois s'inclinèrent devant lui et, après les avoir regardés pendant un bon moment d'un air impérieux, Buck fléchit ses genoux couverts d'écailles et consentit à laisser Hermione caresser les plumes de son cou. Pendant ce temps, Harry regarda le gros chien noir se métamorphoser en son parrain. Sirius était vêtu d'une robe grise en lambeaux, celle-là même qu'il portait lorsqu'il s'était évadé d'Azkaban. Ses cheveux noirs, à nouveau sales et hirsutes, étaient plus longs que lorsqu'il était apparu dans la cheminée. Et Harry fut frappé par sa maigreur.
« Du poulet !»
dit-il d'une voix rauque après avoir jeté par terre les vieux numéros de la Gazette du sorcier qu'il avait porté dans sa gueule, sous sa forme de chien. Harry ouvrit son sac et lui donna les cuisses de poulet et le pain enveloppés dans une serviette.
« Merci, » dit Sirius.
Assis sur le sol de la caverne, il déplia la serviette, saisit un pilon et le dévora.
« Jusqu'à maintenant, j'ai surtout mangé des rats. Je ne peux pas me permettre de voler de la nourriture après au lard. Je risquerai de me faire repérer. »
Il sourit à Harry qui s'efforça de sourire à son tour, mais sans parvenir à dissimuler son inquiétude. « Qu'est-ce que tu fais ici ? » lui demanda-t-il.
« Mon devoir de parrain, »
répondit Sirius en rongeant l'os de poulet à la manière d'un molosse affamé.
« Ne t'inquiète pas pour moi. Je fais semblant d'être un gentil chien errant. »
Il souriait toujours, mais voyant l'expression anxieuse de Harry, il reprit d'un ton plus sérieux.
« Je tiens à être sur place. Ta dernière lettre. Enfin, disons que les choses semblent de plus en plus louches. J'ai volé la Gazette chaque fois que je voyais quelqu'un l'acheter, et apparemment, n'es-tu pas le seul à m'inquiéter ?»
Il montra d'un signe de tête les numéros jaunis de la Gazette du sorcier qu'il avait jetés par terre. Ron les ramassa et commença à les lire.
« Et si quelqu'un te voit, si tu te fais prendre ?» dit Harry.
« Vous êtes les seuls, avec Dumbledore, à savoir que je suis un animagus, »
répondit Sirius en continuant de dévorer ses cuisses de poulet. Ron donna un coup de coude à Harry et lui tendit les numéros de la Gazette du sorcier. Il y en avait deux. Le premier avait pour titre « La mystérieuse maladie de Barthémius Croupton ». À la une du deuxième, on pouvait lire « La sorcière du ministère reste introuvable. Le ministre de la magie personnellement impliqué. » Harry parcourut l'article sur Croupton. Des morceaux de phrases lui sautèrent aux yeux.
« N'a pas été vu en public depuis le mois de novembre. » La maison paraît déserte. L'hôpital Sainte-Mangouste pour les maladies et blessures magiques s'est abstenu de tout commentaire. Le ministère refuse de confirmer les rumeurs de maladies graves. Quand on lit ça, on a l'impression qu'il est en train de mourir, dit lentement Harry. Mais il ne doit pas être si malade que ça s'il a été capable de venir jusqu'ici. Mon frère est l'assistant de M. Croupton, dit Ron à Sirius. D'après lui, « Croupton souffre de surmenage. En tout cas, il avait vraiment l'air malade quand je l'ai vu de près le soir où mon nom est sorti de la coupe, » déclara Harry en continuant de lire l'article. « Il a eu ce qu'il méritait pour avoir renvoyé Winky, non ?» dit froidement Hermione. Elle caressait Buck qui croquait les os de poulet laissés par Sirius. « Je suis sûr qu'il le regrette. Il doit sentir la différence maintenant qu'elle n'est plus là pour s'occuper de lui. »
« Hermione est obsédée par les elfes de maison, » murmura Ron à Sirius. Mais Sirius semblait intéressé par la nouvelle. « Croupton a renvoyé son elfe ?»«
Oui, le jour de la Coupe du Monde de Quidditch, » dit Harry. Il se lança alors dans le récit de ce qui s'était passé ce soir-là. L'apparition de la marque des ténèbres. Winky, qu'on avait trouvé en possession de la baguette de Harry. La fureur de M. Croupton.
Lorsqu'Harry eut terminé, Sirius s'était relevé et s'était mis à faire les 100 pas dans la caverne.
« Résumons-nous, »
dit-il au bout d'un moment en brandissant une nouvelle cuisse de poulet.
« D'abord, vous avez vu l'elfe dans la tribune officielle ?»«
Bon, elle gardait une place pour Monsieur Croupton. »«
D'accord ?»«
C'est ça, » dirent Harry, Ron et Hermione d'une même voix.
« Mais Croupton n'a pas assisté au match. »
« Non, » répondit Harry. « Il a dit qu'il avait trop de travail. » Sirius fit le tour de la caverne en silence. Puis il demanda.
« Harry, est-ce que tu as vérifié si ta baguette était toujours dans ta poche quand tu as quitté la tribune ?»
Harry réfléchit longuement. « Non, » dit-il enfin. « Je n'ai pas eu besoin de m'en servir avant d'être arrivé dans la forêt. À ce moment-là, j'ai mis ma main dans ma poche et je n'y ai trouvé que mes multiplettes. » Harry regarda Sirius d'un air interrogateur. « Tu veux dire que celui qui a fait apparaître la marque des ténèbres m'aurait volé ma baguette quand j'étais encore dans la tribune ?»«
C'est possible, » répondit Sirius.
« Winky n'a pas volé cette baguette !» s'exclama Hermione d'une voix perçante.
« L'elfe n'était pas la seule à se trouver dans la loge, » dit Sirius, qui continuait de faire les 100 pas le front plissé. « Qui d'autre était assis derrière vous ?»«
Plein de gens, » dit Harry. « Des ministres bulgares, Cornelius Fudge, les Malfoy. » « Les Malfoy !» s'écria Ron d'une voix si forte qu'elle se répercuta en écho autour de la caverne. Surpris, Buck remua la tête d'un air inquiet. « Je suis sûr que c'est Lucius Malfoy qui a pris ta baguette. »
« Il n'y avait personne d'autre ?» demanda Sirius.
« Non, » répondit Harry. « Si. Ludo Verpé était là aussi, » lui rappela Hermione. « Ah oui. »«
Je ne sais rien, Verpé. Sinon qu'il était batteur dans l'équipe des frelons de Wimbourne, »
dit Sirius en faisant toujours les 100 pas.
« C'est quel genre ?»«
Il est très bien, » assura Harry. « Il n'arrête pas de me proposer de m'aider dans le tournoi. »«
Ah bon ?»
s'étonna Sirius en fronçant les sourcils.
« Et pourquoi donc ?»«
Il dit qu'il me trouve sympathique.
» marmonna Sirius l'air songeur.
« On l'a vu dans la forêt juste avant l'apparition de la marque des ténèbres, » dit Hermione. « Vous vous souvenez ?»« Oui, » dit Ron, « mais il n'est pas resté dans la forêt. Dès qu'on lui a parlé des incidents avec les moldus, il a filé vers le terrain de camping. »« Comment tu le sais ?» répliqua Hermione. Il a transplané, mais on ne sait pas où. Arrête un peu, dit Ron d'un air incrédule. Tu ne vas quand même pas prétendre que c'est Ludo Verpé qui a fait apparaître la marque des ténèbres. Il serait plus vraisemblable que ce soit lui plutôt que Winky, dit Hermione d'un air buté. Qu'est-ce que je disais ? Lança Ron à Sirius avec un regard éloquent. Elle est complètement obsédée par les elfes, mais Sirius leva la main pour le faire taire.
Quand la marque des ténèbres est apparue, que l'elfe a été découverte avec la baguette de Harry. Qu'est-ce qu'a fait Croupton ?
Il est allé voir dans les sous-bois, dit Harry. Mais il n'y avait personne.
Bien sûr,
marmonna Sirius en continuant de marcher de long en large.
Il aurait préféré mettre ça sur le dos de n'importe qui plutôt que de son elfe. Et ensuite il l'a renvoyé.
Oui, dit Hermione. Il l'a renvoyée simplement parce qu'elle n'était pas restée sous sa tente à attendre de se faire piétiner. « Hermione, tu vas nous laisser un peu tranquille avec tes histoires d'elfes ?» dit Ron. Mais Sirius hocha la tête.
« Elle a beaucoup mieux compris que vous qui étiez Croupton, Ron. Si tu veux savoir ce que vaut un homme, regarde donc comment il traite ses inférieurs, pas ses égaux. »
Il passa une main sur son visage recouvert d'une barbe naissante. De toute évidence, il était plongé dans une profonde réflexion.
Toutes ces absences de Barty Croupton, il prend la peine de demander à son elfe de lui garder une place pour la finale de la Coupe du Monde de Quidditch. Mais il ne vient pas regarder le match. Il travaille avec acharnement pour faire renaître le tournoi des trois sorciers, mais il ne vient pas non plus y assister. Ça ne ressemble pas à Croupton. Si au cours de sa carrière, il a manqué une seule journée de travail pour cause de maladie, je suis prêt à manger Buck.
Tu
connais Croupeton ? S'étonna Harry. Le visage de Sirius s'assombrit. Il eut soudain l'air aussi menaçant que le soir où Harry l'avait vu pour la première fois et croyait encore que c'était un assassin.
« Je le connais même très bien, » dit Sirius à voix basse. « C'est lui qui a donné l'ordre de m'enfermer à Azkaban, sans procès.
Quoi ?» s'exclamaient Ron et Hermione d'une même voix. « Tu plaisantes, » dit Harry.
« Pas du tout, »
répondit Sirius en mordant à nouveau dans une cuisse de poulet.
À cette époque-là, Croupeton était directeur du département de la justice magique. Vous ne saviez pas.
Harry, Ron et Hermione hochèrent la tête.
On le donnait favori comme prochain ministre de la magie, reprit Sirius. C'est un grand sorcier, Barty Croupeton. Il a un grand pouvoir magique. Et le pouvoir, il en est avide. Oh, il n'a jamais été partisan de Voldemort,
ajouta-t-il en voyant l'expression de Harry.
Non, Barty Croupeton a toujours été ouvertement hostile à la magie noire. Mais beaucoup de gens qui étaient opposés à la magie noire... Non, 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 vous ne comprendriez pas. Vous êtes trop jeune.
C'est ce que mon père a dit à la Coupe du Monde, lança Ron avec une pointe d'irritation. Essayez quand même de nous expliquer, on verra bien si on comprend ou pas. Un sourire apparut sur le visage maigre de Sirius.
Très bien, je vais essayer.
Il parcourut à nouveau la caverne sur toute sa longueur, puis reprit.
Imaginez qu'aujourd'hui, Voldemort soit au sommet de sa puissance. Vous ne savez pas qui sont ses partisans, vous ne savez pas qui travaille pour lui, mais vous savez qu'il est capable d'exercer son pouvoir sur des gens qui l'obligent à commettre des actes abominables malgré eux. Vous avez peur pour vous-même, votre famille, vos amis. Chaque semaine apporte son lot de nouvelles morts, de nouvelles disparitions, de nouvelles souffrances. Le ministère de la magie est en plein désarroi. Ses responsables ne savent plus quoi faire, ils essayent de tout cacher aux moldus. Mais dans le même temps, des moldus meurent aussi. La terreur règne partout. La panique, la confusion. C'était comme ça à l'époque. Des périodes comme celle-là peuvent inciter les uns au meilleur et les autres au pire. Les principes de Croupeton était peut-être très bon au début, j'en sais rien. Son ascension au sein du ministère a été très rapide, et il a tout de suite pris des mesures radicales contre les partisans de Voldemort. Les Aurores ont reçu de nouveaux pouvoirs, celui de tuer plutôt que de capturer vivant, par exemple. Et je n'ai pas été le seul à être livré aux détraqueurs sans procès. Croupeton a combattu la violence par la violence et a autorisé, contre certains suspects, l'usage des sortilèges impardonnables. Je dirais même qu'il est devenu aussi implacable, aussi cruel que de nombreux sorciers qui avaient choisi les forces du mal. Lui aussi avait des partisans. Beaucoup pensaient que c'était la bonne méthode. Et il s'est trouvé de plus en plus de sorciers et de sorcières pour le pousser à devenir ministre de la magie. Lorsque Voldemort a disparu, tout le monde pensait que Croupeton ne tarderait pas à décrocher le poste suprême. Mais il s'est alors passé un événement assez malheureux.
Sirius eut un sourire sinistre.
Le propre fils de Croupeton a été arrêté en compagnie d'un groupe de mange-morts qui avait réussi à convaincre leur juge de ne pas les envoyer à Azkaban. Apparemment, ils essayaient de retrouver Voldemort pour le ramener au pouvoir.
Le fils de Croupeton a été arrêté ? Murmura Hermione le souffle coupé.
« Ouais, »
dit Sirius en jetant son os de poulet à Buck. Il s'assit à nouveau et s'attaqua cette fois à la miche de pain qu'il rompit en deux.
Un sale choc pour ce vieux Barty, j'imagine. Il aurait peut-être dû passer un peu plus de temps à s'occuper de sa famille. Il aurait mieux fait de quitter son bureau un peu plus tôt de temps en temps. Ça lui aurait permis de connaître son propre fils. »
se mit à engloutir de gros morceaux de pain. Son fils était vraiment un mange-mort ? Demanda Harry.
Aucune idée, répondit Sirius, la bouche pleine. J'étais moi-même à Azkaban quand il a été enfermé. J'ai appris la plupart des choses que je vous raconte qu'après ma sortie de prison. Ce qui est certain, c'est que le fils Croupton a été pris en compagnie Jean, dont je suis sûr et certain qu'ils étaient des mange-morts. Mais peut-être s'est-il trouvé au mauvais endroit, au mauvais moment, comme l'elfe de son père.
Est-ce que Croupton a essayé de faire sortir son fils de prison ? Murmura Hermione. Sirius eut un éclat de rire qui ressemblait plutôt à un aboiement.
Croupton faire sortir son fils de prison, Hermione. Tu croyais que tu avais compris qui était Croupton. Tout ce qui pouvait menacer de ternir sa réputation devait disparaître. Il consacrait sa vie entière à son unique ambition, devenir ministre de la magie. Tu l'as vu renvoyer une elfe de maison qui lui était entièrement dévouée simplement parce qu'à cause d'elle, on risquait de l'associer à nouveau à la marque des ténèbres. Ça suffit à montrer qui il est, non ? L'affection paternelle de Croupton l'a tout juste conduit à assurer un procès à son fils, mais en fait, ce n'était qu'une occasion pour lui de montrer à quel point il haïssait ce garçon. Ensuite, il l'a envoyé droit à Azkaban.
Il a livré son propre fils au détraqueur, dit Harry à voix basse.
Exactement,
répondit Sirius qui n'avait plus du tout l'air amusé.
J'ai vu les détraqueurs l'amener à Azkaban. Je les ai vus passer devant la porte de ma cellule. Ils ne devaient pas avoir plus de 19 ans. Ils l'ont enfermé dans une cellule voisine de la mienne. Lorsque la nuit est tombée, il a hurlé en appelant sa mère. Mais au bout de quelques jours, il s'est tu. Tout le monde finissait par se taire, sauf ceux qui hurlaient dans leur sommeil.
Le regard de Sirius s'assombrit comme si un voile était soudain descendu devant ses yeux.
« Il est toujours à Azkaban ?» demanda Harry.
« Non, » répondit Sirius d'une voix éteinte. « Non, il n'y est plus. Il est mort environ un an après son incarcération. »«
Il est mort ?»«
Oh, il n'a pas été le seul à mourir, » dit Sirius avec amertume. « La plupart des prisonniers deviennent fous,
eh oui. »
Beaucoup finissent par ne plus rien manger, perdent la volonté de vivre. On le savait toujours quand quelqu'un allait mourir. Les détraqueurs le sentaient, ils étaient de plus en plus excités. Le garçon avait l'air malade quand il est arrivé. Étant donné la position importante de Croupton dans la hiérarchie du ministère, lui et sa femme ont été autorisés à lui rendre une ultime visite sur son lit de mort. C'est la dernière fois que j'ai vu Barty Croupton. Quand il est passé devant ma cellule, sa femme était tellement effondrée qu'il était obligé de la porter à moitié. Elle-même est morte peu après, de chagrin. Elle a dépéri comme son fils. Croupton n'est jamais venu demander le corps de son fils. Jamais. Les détraqueurs l'ont enterré devant la forteresse. Je les ai vus creuser la tombe.
Sirius posa le morceau de pain qu'il venait de porter à sa bouche et vida d'un trait la flasque de jus de citrouille.
Ainsi, tout s'est effondré pour le vieux Croupton au moment même où il croyait avoir tout réussi,
reprit-il en s'essuyant les lèvres d'un revers de main. Le héros, promis au poste de ministre, perdait d'un coup son fils et sa femme, l'honneur de sa famille, et d'après ce que j'ai entendu dire depuis mon évasion, sa popularité.
En apprenant sa mort, les gens ont commencé à éprouver de la sympathie pour le fils Croupton, et se sont demandé comment un garçon si jeune, issu d'une bonne famille, avait pu s'écarter à ce point du droit chemin. Ils ont fini par conclure que le vrai responsable était son père, qui ne l'avait jamais beaucoup aimé. Et c'est comme ça que le poste de ministre est revenu à Cornelius Fudge, tandis que Croupton était envoyé au département de la coopération magique internationale.
Il y eut un long silence. Harry repensa aux yeux exorbités de Croupton lorsqu'il s'était déchaîné contre son elfe le jour de la Coupe du Monde. C'était donc pour cela qu'il avait réagi avec tant de violence lorsque Winky avait été découverte sous la marque des ténèbres. L'incident avait ravivé le souvenir de son fils, du scandale, de la disgrâce. Maugrey soutient que Croupton est obsédé par la capture des mages noirs, dit Harry à Sirius.
« Oui, et j'ai entendu dire que c'était devenu une manie chez lui, » répondit Sirius. « Mon avis, il pense pouvoir retrouver son ancien prestige en arrêtant un nouveau mange-mort. »
et il est revenu ici en cachette spécialement pour fouiller le bureau de Rogue, dit Ron d'un air triomphant en se tournant vers Hermione.
Oui, et tout ça n'a rigoureusement aucun sens, dit Sirius.
Bien sûr que si, répliqua Ron avec fougue. Mais Sirius fit non de la tête.
Écoute-moi bien. Si Croupton voulait enquêter sur Rogue, pourquoi n'a-t-il pas occupé sa place de juge pendant le tournoi? Il avait eu un prétexte idéal pour venir régulièrement à Poudlard et le surveiller de près.
Alors tu crois que Rogue mijote quelque chose? Demanda Harry. Hermione l'interrompit. « Tu peux dire ce que tu veux, il n'empêche que Dumbledore fait confiance à Rogue. »« Laisse tomber, Hermione !» dit Ron d'un ton agacé. « Je sais que Dumbledore est très intelligent, et tout ce que tu voudras, mais ça ne veut pas dire qu'un mage noir vraiment habile ne puisse pas le tromper. »« Dans ce cas, pourquoi est-ce que Rogue aurait sauvé la vie de Harry quand on était en première année? Pourquoi est-ce qu'il ne l'a pas laissé mourir, tout simplement ?»« Fais pas. Peut-être qu'il a eu peur que Dumbledore le renvoie. »
« Qu'est-ce que tu en penses, Sirius ?» demanda Harry d'une voix forte pour que Ron et Hermione arrêtent de se disputer et écoutent.
« Je crois qu'ils ont raison tous les deux, »
répondit Sirius en regardant Ron et Hermione d'un air songeur.
« Depuis que j'ai appris que Rogue était professeur ici, je me suis demandé pourquoi Dumbledore l'avait engagé. Rogue a toujours été fasciné par la magie noire. Il était réputé pour ça quand il faisait ses études. Un type répugnant, avec ses airs doucereux et ses cheveux gras. »
Harry et Ron échangèrent un sourire.
Quand il est arrivé à l'école, Rogue connaissait plus de sortilèges que les élèves de septième année. Il faisait partie d'une bande de serpentards qui sont presque tous devenus des mange-morts.
Sirius cita des noms en comptant sur ses doigts.
Rosier et Wilkes. Ils ont tous les deux été tués par des aurores un an avant la chute de Voldemort. Les Lestrange, c'est un couple marié, sont à Azkaban. Avery, d'après ce que j'ai entendu dire, il est parvenu à s'en tirer en prétendant qu'il avait agi sous l'influence de l'Imperium. Et il est toujours en liberté. Mais autant que je le sache, Rogue n'a jamais été accusé d'être un mange-mort, ce qui ne veut pas dire grand-chose. Beaucoup d'entre eux n'ont jamais été pris. Et Rogue est sans aucun doute suffisamment rusé pour avoir réussi à échapper aux soupçons.
Rogue connaît très bien Karkaroff, mais il préfère qu'on ne le sache pas, dit Ron. Oui. « Tu aurais dû voir la tête de Rogue quand Karkaroff est arrivé au cours des potions hier, » dit Harry. « Karkaroff voulait parler à Rogue. Il lui reprochait de tout faire pour l'éviter. Karkaroff avait l'air vraiment inquiet. Il a montré à Rogue quelque chose qu'il avait sur le bras, mais j'ai pas vu ce que c'était. »«
Il a montré à Rogue quelque chose sur son bras, » dit Sirius qui semblait déconcerté.
D'un geste machinal, il passa ses doigts dans ses cheveux sales, puis haussa les épaules.
« Je ne vois pas ce que ça peut signifier, mais si Karkaroff est vraiment inquiet... » et qu'il va demander conseil à Rogue.
Sirius contempla la paroi de la caverne et fit une grimace.
Bien sûr. Dumbledore fait confiance à Rogue. Dumbledore fait toujours confiance à l'état de gens dont beaucoup d'autres se méfieraient, mais je ne peux pas imaginer qu'il lui ait confié un poste de professeur si jamais Rogue a été au service de Voldemort.
Dans ce cas, pourquoi Maugrey et Croupton tiennent-ils tant à fouiller son bureau? S'entêta Ron.
Maugrey serait bien capable d'avoir fouillé le bureau de tous les professeurs dès son arrivée à Poudlard, dit lentement Sirius. Il prend très au sérieux son cours de défense contre les forces du mal. Je ne suis pas sûr que lui fasse confiance à qui que ce soit. Ce qui n'a rien d'étonnant après tout ce qu'il a vécu. En tout cas, il y a une chose qu'il faut reconnaître à Maugrey, c'est qu'il n'a jamais tué personne quand il pouvait l'éviter. Chaque fois que c'était possible, il ramenait les gens vivants. Il était intraitable, mais il n'a jamais descendu au niveau des mange-morts. Croupton, lui, c'est différent. Est-ce qu'il est vraiment malade? Si oui, pourquoi a-t-il fait l'effort de se traîner jusqu'au bureau de Rogue? Et sinon, que fabrique-t-il? Qu'avait-il de si important à faire à la Coupe du Monde pour rester absent de la tribune officielle? Et pourquoi n'est-il pas venu juger le tournoi?
Sirius se tut, le regard toujours fixé sur la paroi de la caverne.
Buck furetait autour de lui pour voir s'il n'avait pas oublié quelques os de poulet.
Enfin, Sirius se tourna vers Ron.
« Tu dis que ton frère est l'assistant de Croupton. Tu crois que tu pourrais lui demander s'il a vu Croupton récemment ?»«
Je peux toujours essayer, » répondit Ron d'un air dubitatif. « Mais il ne faut pas lui laisser entendre que Croupton mijote quelque chose de louche. Percy a une véritable vénération pour lui. »«
Pendant que tu y es, tu pourrais aussi essayer de savoir où ils en sont de l'enquête sur la disparition de Bertha Jorkins, » ajouta Sirius en montrant l'un des numéros de la Gazette du Sorcier.
« Verpé m'a dit qu'il n'avait rien trouvé, » répondit Harry.
« Oui, est cité dans l'article, dit Sirius. Il raconte partout que Bertha a une très mauvaise mémoire. Peut-être qu'elle a changé depuis que je l'ai connue, mais quand elle était jeune, elle n'était pas du tout étourdie. C'était plutôt l'inverse. Elle était un peu idiote, mais elle avait une excellente mémoire quand il s'agissait de colporter des ragots. Ce qui lui a valu pas mal d'ennuis. Elle était incapable de se taire quand il aurait fallu. J'imagine qu'elle devait représenter plutôt un handicap pour le ministère de la Magie. C'est peut-être pour ça que Verpé ne se donne pas trop de mal pour la chercher.
Sirius poussa un profond soupir et se frotta les yeux.
Quelle heure est-il ?
Harry regarda sa montre, puis se rappela qu'elle ne marchait pas depuis son séjour sous l'eau. 3h30, dit Hermione.
Vous feriez bien de retourner à l'école, conseilla Sirius en se levant. Et maintenant, écoutez-moi bien.
Il regardait particulièrement Harry.
Je ne veux pas que vous quittiez le château en cachette pour venir me voir, d'accord ? Envoyez-moi des lettres ici, c'est tout. Il faudra continuer à m'informer de tout ce qui vous paraît bizarre. Mais j'insiste, pas question que vous sortiez de Poudlard sans permission. Ce serait le meilleur moyen de vous faire attaquer.
Jusqu'ici, personne n'a essayé de m'attaquer à part un dragon et quelques strangulots, dit Harry. Sirius le regarda en fronçant les sourcils.
Peu importe, je ne serai tranquille que lorsque le tournoi aura pris fin. C'est-à-dire à la fin du mois de juin. Et si jamais vous parlez de moi entre vous, appelez-moi Sniffle. D'accord ?
Il rendit à Harry la flasque vide et la serviette dans laquelle il avait enveloppé les cuisses de poulet, puis alla donner une petite caresse à Buck.
Je vais vous accompagner jusqu'à l'entrée du village pour voir si je peux dénicher un autre journal.
Avant de quitter la caverne, il se transforma à nouveau en un gros chien noir, puis ils descendirent tous les quatre le flanc de la montagne et retournèrent devant la clôture. En guise de revoir, ils caressèrent la tête du chien, qui partit en courant le long du village. Harry, Ron et Hermione traversèrent Pré-au-Lard en sens inverse et reprirent le chemin du château. « Je me demande si Perfy est au courant de toutes ces histoires sur Croupeton, » dit Ron. « Mais peut-être qu'il s'en fiche, ou peut-être qu'il l'admire justement pour ça. » Percy adore les lois et les règlements. Il trouverait sûrement très bien que Croupeton ait refusé de violer la loi, même pour son propre fils. Percy ne livrerait jamais quelqu'un de sa famille au détraqueur, dit Hermione d'un ton sévère. Je ne sais pas, répondit Ron. S'il pensait qu'on représente un obstacle pour sa carrière, tu sais, il est vraiment très ambitieux. Ils montèrent les marches de pierre qui menaient au hall d'entrée où de délicieux fumets en provenance de la grande salle annonçaient que le dîner était servi. « Ce pauvre vieux Sniffle, » dit Ron en respirant voluptueusement. « Il doit vraiment t'aimer pour faire tout ça, Harry. Tu t'imagines être obligé de manger des rats dans une caverne ?»